RFI, les 2h du matin à Paris, minuit en temps universel, et c'est l'heure de votre journal sur la Radio du Monde.
Fabrice Le Grillet.
Au moins 26 morts, dernier bilan d'une attaque perpétrée ce mardi au Cachemire indien. Des touristes ont été pris pour cible. C'est l'une des pires attaques contre des civils depuis un quart de siècle. Le premier ministre indien écourte son déplacement en Arabie Saoudite. Les détails dans ce journal. La guerre en Ukraine au cœur d'une nouvelle réunion dans quelques heures à Londres. Objectif que les armes se taisent. La dépouille du pape François sera exposée dans la basilique Saint-Pierre ce mercredi matin avant les funérailles samedi en présence d'un très grand nombre de dirigeants étrangers. Encore une pluie d'hommages depuis la mort du souverain pontife, mais dans la vieille ville de Jérusalem, on est parfois plus divisé. Reportage dans un instant. Enfin, Elon Musk entend s'éloigner davantage du gouvernement Trump pour se consacrer à Tesla. Le premier ministre indien a écourté sa visite en Arabie Saoudite qu'il avait entamée ce mardi. Narendra Modi assure que les responsables de l'attaque qui s'est produite ce mardi dans le Cachemire indien seront traduits en justice. Attaque qui s'est produite à Pahalgam, une destination touristique populaire à environ 90 km de Srinagar. Le bilan est d'au moins 26 morts, il risque encore de s'alourdir. Selon les autorités locales, il s'agit de l'une des pires attaques visant des civils depuis des années. Les précisions de Yelena Tomic.
Selon la presse indienne, les assaillants, dont on ignore toujours l'identité, ont ouvert le feu sur des touristes qui visitaient la vallée de Baisaran, à environ 4 km du site touristique de Pahalgam, dénommé la Petite Suisse pour ses paysages époustouflants. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque, qualifiée de terroriste par plusieurs responsables indiens qui parlent d'actes lâches et ignobles contre des civils. Le premier ministre indien Narendra Modi a promis que les responsables seraient traduits en justice. Cette attaque risque de porter un coup sévère au Cachemire que les autorités indiennes s'étaient efforcées de promouvoir comme destination touristique depuis que l'Inde a annulé l'autonomie partielle du Cachemire en 2019 et imposé un contrôle direct du territoire. Environ 3,5 millions de touristes ont visité la région l'an dernier, en majorité des Indiens. Depuis 1989, le Cachemire, à majorité musulmane, est en proie à une insurrection, des rebelles réclamant son indépendance. New Delhi accuse régulièrement le Pakistan de soutenir les combattants, des accusations rejetée par Islamabad qui affirme seulement soutenir l'autodétermination du Cachemire.
Voilà, attaque qui, je vous le rappelle, a fait au moins 26 morts et qui est condamnée par l'ONU, Israël ou encore par les États-Unis. Américains, Ukrainiens, Européens vont se retrouver à Londres ce mercredi matin. Objectif, tenter une fois encore d'obtenir une trêve et faire cesser les combats en Ukraine. Volodymyr Zelensky se dit prêt à discuter directement avec Moscou pour mettre fin à l'invasion russe, mais seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Kiev qui annonce par ailleurs convoquer l'ambassadeur de Chine en Ukraine pour lui faire part de ses graves inquiétudes. En cause, la présence, selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, de combattants chinois dans l'armée russe et l'aide d'entreprises chinoises à la Russie pour fabriquer du matériel militaire. La dépouille du pape François sera exposée au public dans la basilique Saint-Pierre ce mercredi matin avant des funérailles organisées samedi en présence d'un très grand nombre de dirigeants étrangers, place Saint-Pierre. Les hommages affluent de toutes parts depuis la mort du souverain pontife. Il y a des endroits pourtant où son évocation crée un certain malaise. C'est le cas à Jérusalem. Alors que le pape a souvent pris position et dénoncé la situation humanitaire catastrophique à Gaza, son souvenir semble créer une certaine indifférence, voire un embarras chez les juifs qu'Amira Swilem a pu rencontrer ce matin dans la vieille ville.
La vieille ville de Jérusalem sommeille encore un peu et la famille Oussadon a décidé de profiter de ces rares moments de calme pour se lancer dans une promenade. Le pape est mort, oui, mais que dire de lui ? Gabriel, le père de famille, prend quelques instants pour y réfléchir.
La mort du pape, c'est une perte immense en fait pour les chrétiens. Et donc je pense que les chrétiens ici de Jérusalem prient pour l'élévation de son âme et que son message ne soit pas oublié.
On dit souvent que le pape était plus du côté des Palestiniens que des Israéliens.
Chaque autorité religieuse s'inquiète pour le sort des humains. Des Palestiniens, comme on s'inquiéterait aussi de faire des otages ou des victimes israéliennes, en fait, simplement.
De l'inspiration, les Israéliens croisés ce matin ont manqué pour parler du pape.
Shalom, shalom. Shalom.
La mort du pape, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il y a beaucoup à dire. On ne peut pas commencer parce qu'on finit jamais.
Dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, David, un guide touristique, accompagne un groupe venu de Suisse. Adossé à une porte de la ville, recouverte de portraits d'otages israéliens, lui accepte de dire franchement ce qu'il pensait du pape François.
Je crois que le grand âge peut être quelque chose de terrible. Certains deviennent séniles. Le pape a parlé de Mahmoud Abbas en disant que c'était un ange de la paix. Je crois que son désir de paix l'a aveuglé.
Comme leurs voisins palestiniens en tout cas, les Israéliens guetteront de près la désignation du nouveau pape. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Et une cause qui était très chère au pape François, les migrants en République dominicaine. Près de 90 femmes et 48 mineurs migrants clandestins ont été interpellés dans des hôpitaux et maternités. Les autorités exigent des documents aux étrangers qui s'y font soigner. Cela fait partie d'un large plan visant à freiner la migration haïtienne. Haïti miné par la pauvreté et la violence des gangs. Elon Musk affirme qu'il consacrera beaucoup moins de temps à l'administration américaine et ce, dès le mois de mai. Très proche conseiller de Donald Trump avec pour mission de réduire drastiquement les dépenses fédérales. Le patron de Tesla souhaite consacrer davantage de temps à son entreprise en affirmant que son travail crucial était, je cite, en grande partie accompli. Deux hauts responsables du djihad islamique palestinien qui a pris part aux attaques du 7 octobre ont été arrêtés en Syrie. On l'a appris ce mardi, les deux hommes sont en détention depuis 5 jours. Leur arrestation, Pierre-Olivier, montre la volonté qu'a le nouveau régime syrien de coopérer avec les Occidentaux.
Ce sont deux cadres du djihad islamique, le chef des opérations en Syrie et le responsable de son comité exécutif. Le djihad islamique demande leur libération tout en s'étonnant de cette arrestation de la part de leurs frères. Car l'organisation islamique, soutenue par l'Iran, a longtemps disposé de centres de commandement en Syrie. Sous Bachar al-Assad, Damas était un allié de Téhéran et un membre clé de son axe de la résistance contre Israël. Mais depuis la chute du dictateur en décembre dernier, le nouveau président syrien a rompu ses liens avec l'Iran et veut avant tout reconstruire un pays dévasté par des années de guerre civile. Pour obtenir de l'aide internationale, Ahmed al-Sharra donne des gages en répondant à plusieurs conditions posées notamment par les États-Unis en échange d'une levée des sanctions contre la Syrie. Condition principale, que les nouvelles autorités excluent les terroristes du sol syrien et luttent contre leurs activités. L'arrestation de deux hauts gradés du djihad islamique s'inscrit donc dans cette logique et positionne la Syrie un peu plus proche des États-Unis, allié indéfectible d'Israël.
Pierre-Olivier pour RFI. Il y a une semaine au Royaume-Uni, la Cour suprême a approuvé la définition légale du terme « femme » selon des critères biologiques, une décision à laquelle un parti populiste néo-zélandais emboîte le pas. Le parti Nouvelle-Zélande d'abord a soumis ce mardi une proposition de loi pour définir le genre masculin ou féminin en fonction du sexe biologique, Juliette Chénion.
Si cette proposition était adoptée en Nouvelle-Zélande, une femme serait définie comme une adulte biologique femelle et un homme associé à un adulte biologique mâle, une manière de viser les droits des personnes transgenres qui ne seraient ainsi plus reconnues par la loi. Le chef de l'opposition travailliste, Chris Hipkins, parle d'une politique populiste typique, ce sujet étant d'après lui loin d'être une priorité dans le pays. De son côté, le vice-premier ministre Winston Peters, populiste dont le parti a fait campagne sur l'interdiction d'accès des femmes transgenres aux toilettes pour femmes, prétend clarifier la loi et éloigner son pays de l'idéologie woke. En réalité, ce type de projet de loi soumis par un député et non par le gouvernement a peu de chances d'être voté au Parlement néo-zélandais car il doit d'abord être tiré au sort puis recueillir une majorité de voix. Mais cette proposition reste un message envoyé à l'international. La tendance penche dans notre sens et nous donne raison, veut croire Winston Peters, en écho à la décision prise la semaine dernière par la Cour suprême au Royaume-Uni.
Juliette Chénion pour RFI. En Côte d'Ivoire, le chef du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, radié de la liste électorale par la justice. Une décision qui ferme la porte à sa candidature à la présidentielle du 25 octobre et aucun recours n'est possible. Les juges estiment qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne quand il a acquis sa nationalité française. C'était en 1987. Il y avait renoncé en mars afin de se présenter à la présidentielle. Un scrutin pour lequel un candidat ne peut être binational. Ses détracteurs invoquent un article indiquant que l'acquisition d'une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité ivoirienne. L'entourage de Tidjane Thiam parle de manœuvres orchestrées par le pouvoir. Allez, la page sportive à présent et un mot de basket avec les quarts de finale d'Euroleague. Et ce mardi soir, le Paris Basketball se déplaçait à Istanbul face au Fenerbahçe. Paris qui s'est incliné de peu, 83-78 pour ce premier match. C'est le premier club, je vous le rappelle, qui atteint 3 victoires, qui valide son ticket pour les demi. Et puis à suivre ce mercredi soir, Monaco qui recevra Barcelone. C'est la fin de ce journal sur RFI, la radio du monde, la suite de vos programmes.